dans toutes ces victoires de sportifs qui nous font exulter par leur succès, on ne voit bien sûr que la partie visible de l'iceberg, la plus belle partie, celle de l'accomplissement qui fait rêver le public quand la performance est au bout. La performance, ce n'est pas forcément gagner une médaille, tout dépend de l'objectif que s'était fixé l'athlète. Et c'est d'autant plus vrai pour des sports peu médiatisés qui sont mis en lumière uniquement à l'occasion des Jeux Olympiques tous les 4 ans. Les Jeux pour ces disciplines, c'est vraiment l'aboutissement de 4 années d'une préparation exceptionnelle d'intensité et on peut même dire une préparation de toute une vie depuis l'adolescence pour la plupart d'entre eux, orientée exclusivement sur la progression de leurs compétences en espérant un jour atteindre leurs objectifs, leurs grands objectifs. Beaucoup de renoncements pour cela, beaucoup de sacrifices par rapport à la vie de monsieur et madame tout le monde, comme nous, d'autant plus qu'il s'agit de la période de leur jeunesse. Et avec Delphine, Delphine, elle suit pas mal aussi, c'est chouette d'avoir ma femme à mes côtés qui partage la même chose aussi, les garçons aussi, c'est très très bien. Et donc avec Delphine, il y a quelques jours, on était tous les deux, on a été vraiment subjugués. Donc c'est l'occasion de regarder des disciplines qu'on voit pas, déjà ça passe pas à la télé habituellement. Et donc on a été subjugués par l'équipe de France de natation synchronisée avec 8 nageuses, parce qu'il y a aussi des épreuves avec deux nageuses. Quelle performance artistique avec une synchronisation quasi parfaite. Quelle performance physique, on s'est dit, avec des figures millimétrées et des sauts incroyables en partant de sous l'eau, etc. Enfin, vous avez déjà vu, j'imagine, mais là, on avait vraiment pris le temps de regarder tout le programme, les deux programmes de l'équipe de France féminine, et on s'est dit, waouh, c'est quand même incroyable, on imagine le travail titanesque en amont pour arriver à ce résultat. Et c'est justement ce qui est intéressant, au-delà du résultat magnifique à voir, c'est de découvrir leur parcours en amont pour en arriver là. Et peu avant le début des Jeux Olympiques, j'étais déjà à fond dans les starting blocks, trépillant en attendant vraiment que ça démarre. Et j'ai regardé une série de plusieurs documentaires assez intimistes sur le parcours d'athlètes olympiques qui se livraient, c'est ça qui était intéressant, qui se livraient vraiment à cœur ouvert sur tout ce qu'ils avaient dû traverser durant leur parcours pour atteindre ce niveau olympique. Alors c'était soit des athlètes qui ne concouraient pas là, mais il y en avait aussi qui étaient qualifiés pour les Jeux Olympiques. Et donc c'était vraiment très édifiant, et ça force encore plus le respect, y compris pour ceux qui, au final, n'auront jamais de médaille dans leur carrière. Et ils sont majoritaires, ces sportifs qui, au final, vont rien obtenir ou pas atteindre les grands objectifs qui se fixaient. Et donc, je vais vous lire un extrait d'un article à propos de la persévérance chez le sportif de haut niveau, qui résume en grande partie ce que vivent ces personnes qui consacrent une partie de leur vie à la performance. Donc, cet article, c'est juste un extrait qui dit ceci. Dans le monde exigeant du sport de haut niveau, la performance est une qualité indispensable qui distingue les grands champions des autres. Au-delà du talent inné, la performance implique un mélange unique de détermination, de résilience et de passion pour surmonter les obstacles et atteindre l'excellence. La persévérance sportive repose sur une discipline inébranlable et une volonté inébranlable de s'améliorer constamment. Les athlètes qui réussissent cultivent une éthique de travail solide, consacrant des heures interminables à l'entraînement, à la perfection de leurs compétences et à la maîtrise de leur art. La persévérance exige également une capacité à faire face à l'adversité et au revers. Effectivement, ils le disaient tous, ils connaissent tous ça à un moment donné dans leur parcours. Les défaites et les obstacles font partie intégrante de tout parcours sportif. Mais ce sont ces moments qui mettent à l'épreuve la résilience et la détermination d'un athlète. En surmontant les échecs et en tirant des leçons de chaque expérience, les athlètes persévérants se renforcent et se préparent pour de plus grands succès à l'avenir. La passion pour le sport est un moteur essentiel de la persévérance. Les athlètes qui connaissent un succès durable sont motivés par une passion profonde et authentique pour leur discipline. Cette passion les pousse à persévérer, même lorsque les circonstances sont difficiles, à continuer de s'entraîner avec dévouement et à rechercher constamment l'amélioration personnelle. Fin de l'extrait. Et en lisant ce commentaire sur le sport de haut niveau, on comprend mieux pourquoi également l'apôtre Paul, même si on est à des époques bien différentes, 2000 ans auparavant, comparait déjà la vie du chrétien à celle d'un athlète. Car en effet, on voit qu'il y a un certain nombre de points communs évidents que nous sommes appelés à vivre dans notre vie chrétienne, avec des moyens différents bien sûr, mais tout aussi indispensables si nous voulons grandir et tenir bon jusqu'au bout dans notre foi, tenir bon dans la durée de notre foi, de notre service, ce qui sera notre victoire. L'apôtre Paul nous appelle donc à être des athlètes de haut niveau dans notre discipline qu'est la vie chrétienne. Il utilise l'image du sport à plusieurs reprises dans différentes lettres aux églises, principalement d'origine grecque. Il vit dans une époque où les Jeux Olympiques existent déjà. Il y a déjà des Jeux de ce type-là qui existent dans leur version antique et qui existent depuis déjà 7 siècles avant, au moment où lui vit. Ils sont un moment très important dans la vie de cette société et les champions sportifs de cette époque sont vraiment honorés, sont mis à une place très honorifique, comme d'ailleurs aujourd'hui dans les sports très médiatisés de notre société moderne. Et donc tout cela peut expliquer pourquoi Paul utilise régulièrement dans ses écrits des métaphores sportives qui parlent aux chrétiens de cette région, de cette époque, afin de leur enseigner des vérités chrétienne. Et ce matin, je vous propose qu'on s'arrête sur deux d'entre elles qui sont certainement bien connues de la plupart d'entre vous. La première qui est adressée aux chrétiens de l'église de Corinthe, dans sa première lettre, au chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Et une seconde image également sportive utilisée par Paul sur le même thème, adressée à l'église de Philippe au chapitre 3, les versets 13 et 14. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut des cieux dans l'union avec Jésus-Christ. Il y a un certain nombre d'autres textes. Paul est un des rares à utiliser assez régulièrement cette image et cette comparaison avec le monde sportif. En tant que chrétien, la course à laquelle nous participons est donc celle de la vie chrétienne. La course la plus importante qui soit, la plus prioritaire de toutes. Paul évoque tous ces athlètes des Jeux qui s'imposent une discipline très dure dans tous les domaines de leur vie, dans le seul but de remporter une couronne pourtant périssable, temporaire. Il s'agissait à l'époque d'une couronne faite de feuillage, et comme il le dit dans les versets qu'on a lus précédemment, seul le premier remportait une couronne, contrairement aux Jeux olympiques modernes, les trois premiers sont récompensés. C'est pour ça qu'il dit ça. Mais comme il le dit, si tous ces athlètes orientent leur vie entière vers ce but, vers cet objectif, en mettant tout en œuvre pour réussir, alors qu'en est-il pour nous, chrétiens, qui avons le privilège de participer à une course bien plus importante que n'importe quelle autre. Ne devrions-nous pas, à plus forte raison, discipliner nos vies et nous préparer, pour nous préparer à recevoir la couronne impérissable que Dieu a déjà réservée pour chacun de ses enfants, c'est-à-dire la vie éternelle avec lui. Ma foi et cette perspective d'éternité ne devraient-elles pas conditionner ma vie et l'orienter de manière optimale vers ce but? Mais soyons clairs aussi, il ne s'agit pas ici de gagner cette couronne par notre mérite, par notre discipline de vie, sans faille, une discipline vraiment sans faille, je veux réussir, comme c'est le cas pour un athlète qui est récompensé de tous ses efforts en amont à l'entraînement qui lui ont permis d'être fin prêt le jour J et de gagner. Ce n'est pas le principe de cette récompense divine évoquée par l'apôtre Paul. Sinon, nul ne l'obtiendra. Dans cette course de très longue haleine qu'est la vie chrétienne, la couronne, le prix, c'est Dieu qui l'offre par grâce à ses enfants. Car Jésus l'a gagné pour nous à la croix, c'est ce que nous avons célébré encore tout à l'heure en partageant le repas du Seigneur. Et dans ces versets, en 1 Corinthiens 9, Paul veut nous appeler à une vie qui honore Dieu en réponse à cette grâce extraordinaire, en réponse à cette vie nouvelle qu'il nous offre par amour, en réponse à cette couronne qui nous attend. Les projets de Dieu pour ses enfants vont donc bien plus loin qu'une vie qui, dans un premier temps, reçoit avec joie et avec sincérité sa grâce en Jésus, mais qui ensuite pourrait s'essouffler plus ou moins rapidement avec le temps, pour diverses raisons que Jésus explique notamment à travers la parole du semeur, les épreuves de la vie, les afflictions, un attachement à différentes choses du monde qui sont devenues de plus en plus prioritaires dans ma vie, dans la vie de la personne, et qui vont finir par étouffer sa foi, étouffer totalement sa foi. Tout cela aboutissant petit à petit à s'éloigner de Dieu et partiellement à abandonner la foi, abandonner la course. Cette course est une course d'endurance exigeante, et ça, il ne faut pas se le cacher, faite de persévérance qui nécessite d'y mettre toute son énergie en regardant devant pour avancer, comme Paul le dit en Philippiens 3:13. D'autre part, l'apôtre nous fait comprendre au verset 25 et 26 de 1 Corinthiens 9 qu'il n'y a pas d'improvisation dans tout cela. Il n'y a pas de place pour une voie facile à ce que nous appelle le Seigneur pour grandir dans la foi, pour honorer Dieu par sa vie. En somme, pour être un véritable disciple de Christ, c'est un combat. Relisons ces deux versets d'un Corinthiens 9. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Comme un véritable athlète, nous sommes amenés à penser tout d'abord à la façon dont nous pouvons nous entraîner efficacement et avec discipline. Autrement dit, à la façon dont nous pouvons grandir dans la foi et servir Dieu de manière concrète. Cela commence par trouver des temps propices dans mon planning, certainement chargé, peut-être à en revoir certains en termes de priorité, pour pouvoir avoir du temps pour étudier la parole, pour pouvoir prier Dieu et ainsi entretenir ce qui est essentiel, ce qui est la base de tout, ma relation personnelle avec lui. Et contrairement à tous ces sportifs de haut niveau, en tant que chrétien, nous ne sommes pas en quête d'une performance, mais d'une transformation de notre cœur. En 1 Timothée 6, versets 11 et 12, Paul dit ceci: « Recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. C'est ça ce à quoi nous sommes appelés. De plus, la source de ma persévérance dans cette course et ce combat exigeant, la source de mes progrès dans les différents domaines de ma vie et de mon service pour lui, tout cela ne vient pas de moi, mais ne peut venir que de Dieu, qui agit dans les cœurs de ses enfants. En Jean 15, 5, Jésus rappelle cette vérité à travers la parabole du cep de vigne qu'il est lui, et nous les sarments qui lui sont rattachés. Il disait ceci, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » À travers ces versets que nous avons lus de Paul, Dieu veut nous interpeller chacun en tant que ses enfants. Et encore ce matin, est-ce que je suis bien conscient de l'enjeu pour ma vie? Est-ce que je suis bien concentré sur la vocation à laquelle Dieu m'appelle et sur ce que cela implique concrètement dans ma vie quotidienne? Dieu ne m'appelle pas à vivre une vie de monsieur et madame tout le monde qui ne le connaissent pas, mais il m'a racheté pour quelque chose de bien plus grand qu'une vie soi-disant chrétienne au rabais. Une vie chrétienne qui s'arrêterait peut-être au culte du dimanche matin. Je suis de fait engagé dans cette course. Une course importante, une course exigeante. Mais Dieu nous dit qu'il est là, avec nous, dans toutes les étapes de cette course. Et en effet, tout comme les athlètes de haut niveau, qui ont une équipe autour d'eux, un staff, pour les guider, pour les conseiller, pour les encourager, pour prendre soin d'eux, Dieu donne à chacun de ses enfants une équipe pour l'entourer. À commencer par le meilleur des guides, des conseillers, l'Esprit Saint qu'il a donné à chacun de ses enfants. Mais faut-il encore prendre le temps, régulièrement, d'aller à son écoute, à travers nos temps personnels de lecture et de prière, de le laisser agir en nous. De plus, Dieu nous donne aussi des frères et des sœurs dans l'église locale ou l'église élargie pour nous enseigner, pour nous encourager, pour nous écouter, pour prier avec nous. Une véritable richesse d'être là les uns pour les autres. Parce que nous sommes dans la même course, dans le même combat. Les athlètes, comme on le sait, doivent aussi faire face à différentes épreuves dans leur parcours, tout au long de leur carrière, que ce soit des blessures, des doutes, des échecs, qui mettent un coup d'arrêt à leur progression. Et de même, la course de la vie chrétienne, on le sait, n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de moments de doute, de moments où nous avançons plus difficilement avec Dieu, pour tout un tas de raisons. Et c'est malheureusement la vie humaine. La vie d'enfant qui reste pécheur. Mais par contre, nous sommes appelés à persévérer, à ne pas abandonner la course, car nous aimons Dieu et nous voulons l'honorer pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Et nous rappeler constamment qu'il permet et qu'il utilise les épreuves, les difficultés dans nos vies pour renforcer notre foi en lui, renforcer notre persévérance dans cette course. Alors ce n'est pas une course d'élite, contrairement à ce qui se passe pour les Jeux Olympiques, hein, à la différence de ce monde-là où on a affaire à des athlètes de haut niveau qui ont de base tous des dons exceptionnels qui vont développer à leur maximum. Dans la course chrétienne dont Paul nous parle, il n'y a aucune élite. Il n'y a que des hommes et des femmes pécheurs au même niveau que Dieu a racheté et à qui il a donné des capacités diverses et variées pour le servir, pour l'honorer de manière fidèle et persévérante. Donc aucune raison de laisser place à l'orgueil là aussi. Ainsi, encourageons-nous à mettre tout en œuvre dans notre vie chrétienne pour courir avec persévérance dans la direction attendue par Dieu et pour mener le bon combat avec lui à nos côtés tout au long de notre vie, malgré les hauts et les bas qui, à coup sûr, vont la jalonner, parce que notre joie, notre bonheur, notre passion, comme pour les sportifs, ne se trouve pas dans le sport, sont en Christ et nulle part ailleurs. C'est une course difficile et exigeante, mais c'est la plus belle des courses que cette course des rachetés en Christ, car la perspective finale n'a pas de prix, la victoire éternelle que Christ a gagnée pour nous. Et je voudrais conclure avec ces deux versets de Paul, alors que Paul sait que sa mort est prochaine et que la course de sa vie va s'achever. Il fait un bilan de sa vie avec le Seigneur et il dit ceci à Timothée dans sa deuxième lettre au chapitre 4, versets 7 et 8. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Prions tout au long de notre vie et persévérons sur le bon chemin pour que ces paroles de Paul puissent aussi être les nôtres quand la fin arrivera. Amen.